Tout de suite sur Art District, c'est l'émission Graines d'avenir. Julie Boucher vous parle d'économie sociale et solidaire et vous fait découvrir des initiatives positives qui présagent déjà du monde de demain. Cette émission vous est proposée par Art District en partenariat avec le magazine Social Terre, le média de l'économie nouvelle génération. Bonjour à tous, c'est Julie Boucher et pour ce nouveau numéro de Graines d'avenir, je vous emmène au Grand Voisin. Cet espace se situe dans les anciens locaux de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, au numéro 82 de l'avenue d'Enfer-Rochereau à Paris. Plutôt que d'être abandonné en attendant sa transformation en écoquartier, ce territoire a été confié à des associations qui en ont fait un lieu vivant, ouvert sur le monde et à la portée de tous, même des plus précaires. Découvrez avec moi ce lieu étonnant et partez à la rencontre de ses habitants.
Bon, alors moi c'est Florie et je suis chargée de communication sur le projet des Grands Voisins pour l'association Aurore.
L'association Aurore, c'est une association de lutte contre l'exclusion par l'accès à l'hébergement, le soin et l'insertion professionnelle. C'est une vieille asso qui existe depuis 1871. Alors ils sont présents partout en France, mais surtout en Île-de-France. On est ici sur le site des Grands Voisins, donc c'est le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, hôpital qui a fermé progressivement ses portes. Donc le site fait 3 hectares et demi, et aujourd'hui sur le site, il y a, on va faire le constat, 600 personnes qui sont hébergées dans des centres d'hébergement. Donc il y a 6 centres d'hébergement, il y en a 5 qui sont gérés par l'association Aurore et 1 par l'association Coalia. Il y a également sur le site 180 structures maintenant. Donc ce sont des artistes, des artisans, des startups, des associations. Donc en termes de personnes, ça représente à peu près 2000 personnes qui vivent et travaillent sur le site. Et en plus de ça, le site est aussi ouvert au public 5 jours par semaine, du mercredi au dimanche, avec une programmation culturelle, artistique, qui fait donc venir un autre public, les habitants du quartier, un public de Parisiens, un public de personnes qui viennent de plus loin, comme vous. Voilà, donc le premier centre d'hébergement est arrivé sur le site en 2011. Il y avait encore des activités de l'hôpital. Voilà, les services ont fermé petit à petit et l'association Aurore a eu la gestion globale du lieu fin 2014. Voilà, donc jusqu'à arriver à aujourd'hui avec les 6 centres d'hébergement, les 180 structures, les dernières nous ont rejoints au mois de janvier. Donc tout a été assez progressif.
Jean-Baptiste Roussat, directeur général délégué de Plateau Urbain. Fin 2014, l'hôpital n'est plus un hôpital et on a un peu l'alternative entre fermer les places, murer le site, attendre 3 ans que le projet d'écoquartier qui doit venir sur le site se fasse, ou raisonner différemment. Et le choix a été fait de commencer à engager cette réflexion autour de la mixité, de l'ouverture au public et d'un usage un peu alternatif des interstices urbains. Aurore était très impliqué dans cette démarche, en qualité de gestionnaire d'ensemble du site et de porteur du projet social des Grands Voisins. Mais il a fallu aussi y apporter d'autres compétences, et c'est une des forces de ce projet, c'est d'avoir réussi à agréger énormément de compétences. Au début, il y en a eu 3 structures qui se sont articulées. Aurore d'une part, gestion d'ensemble, et hébergement, soins et insertion. Yes We Camp et Plateau Urbain. Donc Yes We Camp, c'est un collectif marseillais qui est né en 2013 pour la capitale européenne de la culture. Eux, ils travaillent sur les espaces publics ou des équipements alternatifs, partagés, ludiques, qui permettent en gros d'investir un lieu, de le rendre confortable, de le rendre accueillant et de lui redonner une valeur le temps de la friche. Ce qu'ils ont fait donc à Marseille avec un camping, mais aussi dans des quartiers populaires. Et en l'occurrence au Grand Voisin, où il travaille sur la coordination des espaces extérieurs, la conception et la gestion de lieux comme ici, la lingerie, c'est-à-dire des lieux de rencontre, mais aussi des lieux qui permettent de générer des revenus. Il y a toujours une articulation un peu entre le projet social et l'économie, forcément. Et aussi des formes d'hébergement un peu nouvelles dans Paris, camping, cabane. On y reviendra si vous voulez. Troisième roue du carrosse, nous, Plateau Urbain, donc on est une asso qui est devenue coopérative depuis très peu. Nous, on a une réflexion sur justement la place de la vacance dans le marché immobilier. Un chiffre un peu choc, mais qui nous avait vraiment mobilisé dès 2013, c'est 4 millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France. Voilà, donc il y a de quoi faire. Le tout est de savoir comment on fait et comment on fait dialoguer les propriétaires et des porteurs de projets associatifs, citoyens, mais aussi économiques, mais aussi culturels, qui vivent jusqu'à présent un peu dans leur petit monde, même s'il y a des initiatives pour décloisonner, et qui ne sont pas forcément armés pour dialoguer d'égal à égal avec des grands propriétaires. Voilà, donc créer de la culture commune, créer des outils communs et proposer des locaux accessibles en termes financiers, donc le prix des charges, autant que faire se peut, à toute une génération de porteurs de projets. Donc ce qu'on fait au Grand Voisin, c'était ça, c'était appuyer Aurore dans un modèle économique global, parce qu'il y a de l'argent public qui est mis dans le lieu, lié à l'hébergement, mais il ne couvrait pas du tout l'entièreté des charges. On paye 2 millions d'euros par an juste pour la gestion du lieu et du projet. L'argent public de l'État en couvrait moins de la moitié. Et donc, les contributions des 180 structures par des redevances, donc l'équivalent des loyers, permet d'équilibrer cette somme. Donc, vous voyez, là encore, les structures qui sont ici sont à la fois des partenaires, et on ne dira jamais assez, on les a choisis et ils sont venus ici en connaissance de cause à la fois pour être dans un projet social et dans un projet temporaire. Mais c'est un soutien indispensable à notre présence ici en termes financiers. Alors, c'est un projet temporaire. C'est vrai qu'on n'a pas commencé par ça, mais effectivement, on est dans une phase transitoire entre l'hôpital d'une part et un écoquartier. Donc, en décembre 2017... fin des Grands Voisins. Premier trimestre 2018, ça devient le bordel. Et ce qui est un de nos points forts, c'est justement qu'on a su tisser un dialogue avec les propriétaires successifs, avec la collectivité, avec les techniciens en face, pour négocier au mieux notre présence, ou plutôt la construire ensemble, parce que ça donnerait l'impression qu'on a dû arracher des choses alors que... Oui, les hébergés vont trouver des solutions. Ensuite, sur les structures, c'est un autre sujet, parce qu'on conçoit que c'est juste un moment, à la fois pour eux, humainement, et pour leur structure de développement économique de leur projet. Si derrière, ils n'ont pas les reins pour accéder à des formes classiques d'immobilier, malheureusement, on les renverra sur d'autres solutions temporaires ailleurs dans Paris ou nulle part. En fait, nous, on n'a pas d'engagement à reloger les activités. Pour approfondir un peu la lecture du projet, c'est vrai qu'on a quelques mots-clés qui sont donc la mixité entre les activités, d'une part, mais aussi entre les personnes. Notre ambition, c'est que les barrières symboliques, sociologiques du quotidien s'abaissent lentement et qu'on soit plus ici au titre d'une étiquette, mais bien en tant que voisin. Alors dit comme ça, c'est un peu béni oui-oui, mais en fait, c'est du taf et c'est... Voilà. Ça passe par énormément de petites attentions, de petits dispositifs, des choses qui se font informellement, des barbecues, des rencontres. Et il y a des choses beaucoup plus formelles et qui sont aussi des moyens intéressants d'innover en matière de travail social. C'est-à-dire qu'ici, on le conçoit comme un laboratoire, avec l'opportunité pendant un temps donné de faire des choses dans nos métiers respectifs qu'on ne pourrait pas faire ailleurs. Je parle pour Aurore, mais parce que aussi c'est ça qui est beau, c'est qu'on apprend les métiers d'autrui. On a la maison des médecins dont on vient de parler, qui est la réflexion, et on en reparlera, de mutualiser entre différents foyers des besoins et de donner aux personnes qui sont hébergées ici les clés un peu du camion, en tout cas de partager la gestion de ce lieu, un peu à l'écart finalement de la dynamique foisonnante et grand public du site, mais parce que parfois un peu d'intimité c'est bien. Il y a des lieux partagés entre nos usages et ceux du quartier, il y a un amphithéâtre qu'on a rénové et qui permet de faire à peu près tout. De l'accueil d'une AG d'assaut à un cinéma de quartier, à nos propres réunions en interne, parce qu'il y a une forme de gouvernance. Là, on a parlé de trois têtes de pont, mais en fait, les Grands Voisins, c'est 2000 personnes qui viennent travailler, 600 qui habitent. Nous, on aimerait, évidemment, c'est l'utopie, mais que chacun soit investi à titre personnel dans la mesure de ses moyens. Et c'est ce qui se passe finalement, on a quand même énormément d'initiatives. Nous, notre attitude, c'est d'être capable à la fois de permettre l'expression des envies des uns et des autres, tout en respectant un cadre, parce que c'est aussi ça, on a une lecture technique de notre présence ici, réglementaire, bâtimentaire, c'est-à-dire des chaufferies qui pètent, des réseaux internet qui tiennent pas le coup, etc. C'est quand même du taf, des fuites quand il pleut, voilà. Plateau urbain, on assiste au rang aussi sur cette coordination technique, parce que c'est, il y a des sujets qui sont mutualisés, et donc il faut qu'il y ait des gens un peu au centre qui s'occupent de ça. C'est clairement pas le cœur de métier d'Aurore, et nous on a dû l'inventer au fur et à mesure parce qu'on s'est rendu compte que le site nous le dictait. Une fois qu'on gère les sujets techniques, qu'on se les a appropriés, qu'on a mis les lieux en conformité avec la sécu incendie et les autres, il y a la possibilité pour beaucoup de monde de faire beaucoup de choses. Et le tout l'art, c'est justement d'identifier des chefs de file, de pas tout faire tout seul, parce que le but du jeu, c'est pas d'avoir un projet dessiné qu'on déroule sur 5 ans, mais au contraire de dire allez-y, faites, et vous verrez sur le site énormément de trucs qui ont été construits parfois à l'arrache, parfois on sait pas très bien pourquoi, qu'il faut déposer, mais au moins ils auront été là et il y a une part de gratuité dans le geste qui est assez intéressante, et on sent qu'il y a un besoin social aujourd'hui, là je mets une casquette pas uniquement grand voisin, d'avoir ces espaces où on a le droit de faire des choses au sens très large du terme.
Ok. C'est parti. C'est bon ? Alors, au niveau des espaces extérieurs, on a un code couleur un peu sur le site qui n'est pas forcément hyper visible, mais on vous le dit, comme ça vous savez. En gros, tout ce qui est jaune, c'est ce qui est ouvert au public et donc accessible à tous sur les heures d'ouverture, donc du mercredi au dimanche. Et tout ce qui est signalisé plutôt en bleu, c'est les espaces privés, donc c'est soit de l'hébergement, soit des bureaux. Donc là, sans rendez-vous ou quoi, les gens peuvent pas y aller, c'est chez les gens ou dans les bureaux. Quoi.
Bureau proprement.
Donc voilà, ici, ça c'est la cour Robin, donc là c'est le bâtiment Robin Oratoire, il y a et hébergement et structure. Donc après, il y a certaines structures qui sont plus visibles que d'autres, puisqu'elles ont pignon sur rue, comme Foot de rue ici, ou la rue Pasteur qu'on verra tout à l'heure.
Ici, c'est la de rue, qu'est-ce que c'est ? Tu peux en profiter pour
C'est expliqué ici. C'est une structure qui fait de l'insertion pour les femmes qui ont un projet de monter leur entreprise dans l'alimentaire. Donc ça, c'est l'allée principale. On voit aussi tous les petits espaces verts, donc il n'y en a pas énormément, mais ont été utilisés pour faire des potagers partagés. Tout le monde pouvait prendre une petite passerelle, une petite parcelle, pardon, et s'occuper de son petit potager. Après, il y a tout un... C'est surtout Yasui Camp qui s'occupe des espaces extérieurs. Il y a tout un volet aussi, soins du corps et de l'esprit pour se sentir bien et faciliter la sociabilisation, l'échange. Donc là, par exemple, on voit les agrès sportifs. Il y en a à plusieurs endroits du site. Alors ça, c'est les structures qui sont ici ou même de l'extérieur qui proposent des activités. Donc il y a yoga, shiatsu, il y a énormément de choses qui sont visibles. Alors vous verrez sur les panneaux ou même à l'intérieur de la lingerie, il y a une ardoise avec le planning de la semaine. Et sinon, sur le site, on voit des A3 jaunes, c'est la lettre des voisins. Et là, il y a toutes les activités proposées chaque semaine qui sont diffusées sur le site. Ici, la petite guérite à roulettes qu'on voit, c'est la cafette mobile. Ça aussi, c'est un outil qui nous sert dans... Enfin, c'est un lieu, un outil d'échange, en fait. Deux fois par semaine, on passe avec la cafette mobile sur roulette dans toutes les allées du site, avec du thé, du café, ou là, avec les beaux jours, des sirops. Et voilà, ça permet d'afficher la lettre des voisins, d'annoncer le programme de la semaine, et puis de faire que les gens se croisent au détour d'une allée, boivent un verre ensemble. Et ça marche assez bien. Donc, c'est soit des gens de Yasui Camp, soit d'Aurore qui la font tourner. Mais de plus en plus, il y a beaucoup de résidents qui suivent ce rendez-vous-là.
Prenons maintenant la direction de cette étonnante verrière où ont lieu des tests d'aquaponie.
Bonjour, moi je m'appelle Pierre et je suis bénévole ici. J'ai rencontré la personne qui s'occupe de la serre, c'est Philémon. Et donc il m'a accueilli, et puis comme beaucoup d'autres, pour expérimenter ici au Grand Voisin l'aquaponie. Le fonctionnement de l'aquaponie, c'est le mariage de deux systèmes. Donc c'est l'hydroponie et l'aquaculture. Donc le souci en aquaculture, c'est que voilà, il faut maintenir une eau qui est propre pour les poissons. Parce que forcément, nous, on va nourrir les poissons, mais les poissons vont faire des déjections, ils vont salir l'eau. Donc soit on renouvelle l'eau et là, à ce moment-là ça marche, soit on trouve un système pour filtrer l'eau, pour la nettoyer, pour que ça soit naturel. Donc là c'est le cas, on prend l'eau du bac des poissons et on va la pomper et l'amener dans le bac de culture. Et dans le bac de culture se trouvent des billes d'argile, on ne met pas de terre, et se trouvent des plantes. Donc les plantes sont mises dans les billes d'argile, et on a donc les racines qui sont en contact directement des billes d'argile. Dans ce substrat se trouvent énormément de bactéries. Et donc j'en reviens aux poissons qui font des déjections, ils vont salir l'eau. L'eau, elle est pompée, on l'amène dans ce bac, dans le bac avec les plantes, et on va utiliser les bactéries qui vont transformer l'ammonium, donc ça c'est les déjections des poissons, en nitrite, et puis ensuite en nitrate. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'ammonium et les nitrites, c'est pas assimilable directement par les plantes, mais les nitrates sont assimilables, donc on va avoir le cercle qui est bouclé. Une fois que l'eau est débarrassée des nitrates, l'eau retombe par gravité dans le bac à poissons. Il y a plusieurs designs possibles. Donc on peut mettre dans un aquarium, on peut mettre des grands bacs, des petits bacs. Voilà, on peut faire un système en escalier, système raft, enfin il y a plusieurs choses possibles. On fait de la culture hors sol, donc c'est pratique en ville. Quand on manque de terre pour cultiver. Et ensuite, il n'y a pas de perte d'eau dans ce système. Voilà. Donc, à part l'eau qui est bue par les plantes et l'évaporation, il n'y a pas de perte d'eau.
Et les plants, ensuite, vont être mis dans les bacs et les petits jardins partagés, c'est ça?
Alors, les plantes, ça dépend. L'autre jour, il y a José, qui est un résident ici, qui... Gevork qui est un résident ici au Grand Voisin, et il venait il parlait pas bien français, mais on a réussi quand même à se comprendre, et donc je lui ai échangé un pied de tomate contre des graines qui viennent d'Arménie et donc voilà, pour l'instant ça se passe comme ça. L'idée c'était de d'alimenter la lingerie en aromates, en choses comme ça. Et là, ça fait un an et demi que la serre a été construite par Yes We Camp. Et après, l'équipe, c'est La Paillasse, Open Aquaponie, qui gère la serre et qui fait plusieurs expériences par ce biais-là. Voilà. Et puis donc après, il y a tous les bénévoles qui viennent, qui apprennent, comme moi, voilà, sur le tas. Et qui peuvent ensuite reproduire chez eux.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis journaliste et je fais un reportage sur
les grands voisins.
Ah, cool.
Et je sais pas, j'ai eu envie de toquer chez vous, là. J'ai vu la belle chaussure Maître Cireur et je me suis dit, voilà quelqu'un qui m'a l'air bien intéressant. J'ai tort?
Oui, je vous laisse.
Ok, merci.
Alors, racontez-moi, comment vous vous appelez?
Maj Gilbert.
Et alors Gilbert, qu'est-ce que vous faites ici, dans ce tout petit endroit?
Eh ben, je prends des vieilles chaussures que je remets en état neuf, comme si c'était sorti du magasin.
Vous êtes un magicien de la chaussure?
Un magicien et un chirurgien surtout.
C'est vrai?
Oui.
Vous ne faites pas que de les nettoyer et de les astiquer, vous savez aussi les remettre en état.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Alors ça, c'est un petit métier qui avait disparu, non?
Oui, c'est moi qui l'ai remis en route en 2013 ici à Paris.
Oui.
Mais j'ai parcouru la France et tous les pays européens. J'ai ciré au black et après j'ai voulu le faire à Paris pour pouvoir former d'autres cireurs.
Alors là, je vois baskets synthétiques 7 € pour la rénovation, les baskets en cuir, les teintures de cuir tout coloris. Vous savez vraiment tout faire?
Oui, absolument.
Alors quel est l'avantage pour vous d'être ici au Grand Voisin?
Eh bien, c'est chaleureux, tout le monde se parle, tout le monde se connaît. C'est un avantage social. Avant tout,
Ça vous permet d'avoir un local aussi?
Ça me permet d'avoir un local, ça me permet de perdre des choses que je ne peux pas perdre dans la rue. C'est-à-dire comme les blousons de cuir, comme les réparations. C'est pour ça que le site des Grands Voisins, ils sont extraordinaires au point de vue rassemblement, c'est vraiment le top.
Comment est-ce que vous envisagez l'avenir?
C'est-à-dire?
Après les Grands Voisins, vous y avez réfléchi ou pas encore, l'année prochaine?
Pas encore.
Chaque chose en son temps.
On verra le temps venu.
On dirait quand même que vous êtes sur une bonne dynamique, non?
Oui.
Là, je vous vois avec un grand sourire. Vous habitez dans le coin ou...
Moi, j'habite en Seine-et-Marne.
Alors, tous les matins?
Je viens, je fais le site des Grands Voisins, Avenue des Gobelins, parce que j'ai aussi des clients Avenue des Gobelins qui ne peuvent pas venir là, personnes âgées. Donc, je suis obligé de faire 3 jours au site des Grands Voisins, 3 jours à Nuit des Gobelins. Là, je vais sur mes 60 ans au mois de novembre.
Et vous avez toujours ciré dans la région parisienne ou vous êtes allé
non,
aussi...
Non, j'ai ciré partout. J'ai fait beaucoup de pays étrangers, j'ai fait beaucoup de pays européens, j'étais partout. Les autres pays, ils sont obligés, les gens sont obligés de se faire cirer tous les jours. Tandis que mon produit à moi, il dure 3 mois de résistance.
Est-ce qu'on vit bien quand on est maître cireur? Est-ce qu'on s'en sort?
Le mot s'en sortir, c'est pas vraiment le mot. Je dirais qu'on l'emploie, on survit. Voilà.
En aimant ce qu'on fait.
En aimant ce qu'on fait, ouais. C'est pas une question d'argent ou. C'est une question de rendre les gens heureux avec des belles chaussures, ouais. Tout simplement.
Merci beaucoup, Gilbert Mage.
Merci.
De m'avoir raconté tout ça. Allez, j'entre au truck shop.
Alors moi, je suis Marine. Ça fait 8 mois que je suis en service civique au truck shop pour Aurore. Et je suis la deuxième service civique à prendre le flambeau du truck shop, disons. Mon service civique se termine dans 2 semaines. Donc je passe le flambeau à une nouvelle service civique. Voilà, ça c'est le côté un peu... administratif. On est ouvert tout l'après-midi, tous les jours, du lundi au vendredi, et on accueille les personnes qui habitent sur le site pour soit prendre le café, soit participer à une activité sur le site, ou soit acheter quelque chose dans la boutique en monnaie locale.
Il n'y a que les résidents qui peuvent venir au truck shop?
Alors tout le monde est le bienvenu, les résidents, les structures locataires, les personnes extérieures, c'est vraiment un espace de convivialité. Mais c'est vrai qu'on touche plus, les résidents, ils s'identifient plus au lieu que d'autres, disons.
Comment ça se passe si un résident arrive aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui proposez?
Alors, s'il est déjà inscrit sur notre cahier des utilisateurs, on a son nom, son prénom, son numéro de téléphone, la structure dans laquelle il habite et quelles activités il veut faire. Donc, quel savoir il a à apporter au site. Et s'il n'est pas inscrit, on lui demande de remplir ses infos. Et,
qu'est-ce qui est très recherché, par exemple?
Alors, il y a eu beaucoup de ménages et déménagements, construction de bois, donc aider en menuiserie, peinture. Voilà, c'est un peu les grosses demandes. Et après, il y a des demandes plus ponctuelles qui sont un peu plus valorisantes, comme faire de la couture, du tricot, apprendre un savoir pour pouvoir le retransformer et potentiellement vendre ce qu'on a fabriqué. Il y a une chocolatière aussi qui demande de l'aide parfois quand elle a des grosses demandes.
Et donc là, en fonction de l'activité, on reçoit un chèque temps?
Alors on n'appelle pas ça un chèque, c'est un billet en fait. C'est des billets, il y a trois billets imprimés qui sont datés et non falsifiables. On a un papier spécial quand même qui est fait pour pas être copié quoi. Et donc sur ces trois billets, il y a 15 minutes, 30 minutes et une heure. Et donc ça équivaut au temps passé à faire l'activité.
Voilà. Et alors ensuite, comment ça s'échange ?
Alors on n'a pas de conversion en euros. Donc c'est une monnaie qui se dépense uniquement sur le site. Dans notre boutique, on a essentiellement des vêtements, des chaussures, un peu de linge de maison, de la vaisselle. On essaye aussi de faire des collectes alimentaires dans les magasins pour que voilà, on puisse avoir une meilleure offre. On fait des appels aux dons aussi, de tickets de métro et de packs d'eau, parce que c'est une denrée assez convoitée ici. Ensuite, il y a la boutique d'à côté qui est la ressource récréative. Et là, il y a une conversion euro dans le sens où, pour une heure, ils peuvent avoir 10 euros d'achat dans la boutique. Il y a la lingerie aussi qui propose toutes les boissons non alcoolisées, des encadres et un repas. Et il y a Foot de rue qui propose un repas complet pour une heure.
Mmh. Voilà. Et est-ce qu'il y a des échanges si moi, j'ai donné une heure et donc j'ai un billet d'une heure, je peux demander à quelqu'un de faire quelque chose pour moi pendant une heure ?
Bien sûr. Oui. L'idée, c'est que les échanges se créent aussi sans forcément passer par nous. C'est-à-dire que nous, on initie certaines activités, on crée des liens en fait entre les structures et les résidents. Et si ça fonctionne en dehors de nous, c'est super en fait, c'est ce qu'on cherche.
Et est-ce que ça le fait ?
Un petit peu, ouais. Il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on apprend. Il y a des paris sur le foot, par exemple, avec des billets temps. Il y a certaines personnes résidentes, donc qui habitent sur le lieu, qui font faire leur ménage par d'autres résidents. Après, j'ai pas de grands exemples comme ça, mais je sais que ça se fait en fait. On n'a pas vision sur toute l'utilisation.
Et vous, qui achevez votre service civique ici, alors qu'est-ce que vous en retenez ?
Je retiens que faire un service civique aux grands voisins, au truck shop, c'est d'énormes responsabilités et c'est très formateur. C'est un peu dur de partir, dur de quitter un espace comme celui-là, une collectivité comme celle-là. Et ça m'a permis de trouver un peu plus le sens de ce que je voulais faire plus tard. Donc,
on veut en savoir plus, c'est-à-dire
En fait, j'ai retenu une chose de tout le travail que j'ai fait ici, c'est... ça touche une, deux personnes maximum sur le site. C'est d'avoir mis en place un espace vert autour du truck shop et de proposer à une personne de s'occuper des plantes, de les arroser, de les tailler le matin ou le soir. Et il se trouve qu'il le fait très bien et que du coup, il a les clés du truck shop. Il vient arroser les plantes le matin. Il a même son propre potager maintenant sur le site. Et voilà, je trouve ça génial. Et j'ai envie de gratter un peu ce qu'il y a là-dedans, quoi.
De ce côté-là.
Voilà.
Dans le social, alors ?
Peut-être. Dans le social, ouais, je pense. Et dans le végétal, surtout.
Merci, Marine.
Merci.
On pousse la table. Cette table-là. La table-là.
Bonjour, je suis Adèle Ramage, donc je suis responsable des ateliers créatifs à la ressource récréative. Je suis aussi responsable de la communication de la structure. Aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois que je suis en stage à plein temps, mais jusque-là, j'étais bénévole depuis plus d'un an. Alors, la ressource récréative, c'est une structure qui a pour objectif la diminution du déchet, entre guillemets. C'est-à-dire que plutôt que de recycler ou de jeter, nous, on récupère les objets du quotidien, ce qu'on appelle les encombrants. Qu'aujourd'hui, donc ça va être tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est textile, les meubles, les livres, tout ça. Et l'idée, c'est que on réemploie, c'est-à-dire on va revaloriser tout ça et on va les revendre à prix solidaire. Donc on a à la fois un objectif écologique de réduction des déchets et à la fois un objectif social parce que les produits à prix solidaire nous permettent de toucher un public qui est parfois en précarité, donc un public parfois précaire. Ces produits sont du coup souvent de bonne qualité parce qu'on les répare, parce que soit ils arrivent en bonne qualité, soit on les répare. C'est des produits aussi qui permettent d'avoir un engagement écologique pour ceux qui achètent et qui ne sont pas en situation de précarité. Et puis, on a aussi une relation très particulière avec le site des grands voisins. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les voisins, avec les personnes qui vivent sur le site. C'est-à-dire qu'ils ont des réductions à la caisse, ils ont sur les produits. Et puis, il y a beaucoup de bénévoles, les grands voisins, qui travaillent aussi avec le système de ticketant. C'est-à-dire que leur bénévolat, on leur permet d'avoir des ticketants qui leur permet à eux soit d'avoir un repas solidaire à la lingerie, soit d'acheter au Troc Shop, soit d'acheter pour 10 euros dans notre boutique. Par exemple, une heure représente 10 euros dans notre boutique. Donc on est assez fiers de ce double objectif à la fois écologique et à la fois social qui nous permet de travailler dans l'économie sociale et solidaire, d'être acteur du développement durable et acteur de l'avenir, quoi.
Là, je vois que le site, il est fermé encore, mais pourtant, je vois pas mal de gens qui s'activent. Qui sont ces personnes en général? Ce sont des résidents ou c'est...
Alors, on a 5 employés à la ressourcerie créative, dont plusieurs emplois aidés. On a 2 stagiaires, bientôt 3, 4, 5, donc sur plusieurs pôles. On a 2 services civiques qui gèrent les bénévoles et on a plus d'une trentaine de bénévoles qui viennent donc de manière régulière. On a des bénévoles qui sont là tous les jours, notamment des résidents. Alors je ne sais pas combien exactement de résidents on a qui viennent régulièrement, mais on doit avoir une dizaine, une quinzaine de bénévoles qui viennent régulièrement, qui viennent du site des grands voisins.
Ouais. Et est-ce qu'ils sont, ils sont bénévoles, mais est-ce qu'ils sont rémunérés en ticketant ou pas du tout?
Alors les bénévoles des grands voisins, oui. Sauf certains, parce que par exemple, on a une bénévole qui refuse les ticketants parce qu'elle estime que le travail qu'elle fait, c'est pas justement c'est du bénévolat et elle ne veut pas les ticketants parce que c'est du bénévolat, parce qu'elle estime qu'elle veut pas être payée, parce qu'elle le fait avec bon cœur, elle me dit. Elle me dit ce que je le fais avec bon cœur et pas pour les ticketants. Et du coup, ça fait plaisir quand on nous dit ça, de se dire ah ouais, c'est ça l'esprit de la ressourcerie, c'est ensemble contre tout et puis malgré tout. Enfin, c'est-à-dire que c'est aussi un moment où, avant que je sois stagiaire, c'était aussi un moment où je venais pour me détendre, un moment où je venais pour partager, pour rencontrer, pour dialoguer. Et ce qui est assez incroyable ici, et c'est aussi grâce aux grands voisins, c'est qu'on a un brassage culturel et social assez intéressant du fait des grands voisins, du fait des personnes qui vivent sur le site et du fait du 14e, parce qu'on a quand même pas mal de personnes du 14e qui viennent aussi. Et que ce soit par nos clients ou chez nos bénévoles, on a ce brassage culturel et social intéressant. On se retrouve à discuter soit avec des doctorants en droit ou en développement durable, mais aussi avec des jeunes qui viennent de finir leur bac, des futurs tatoueurs, des résidents qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, ce qui n'est pas toujours évident aussi, mais on partage. Et ça, c'est incroyable de pouvoir partager avec tout le monde ici.
Toi, tu es stagiaire, tu disais au début. Comment ça s'inscrit, cette expérience, dans ton parcours professionnel?
Alors, moi, à la base, je suis tutante en art. Et je suis très sensible à la question des inégalités et de la démocratisation de la culture. Et j'ai choisi de faire une année de césure pour m'engager. Donc j'ai fait un service civique d'abord de 10 mois dans l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui, ce stage me permet d'allier à la fois la dimension culturelle, donc créative, et à la fois la dimension engagement social et engagement écologique. Je suis très très sensible au domaine du réemploi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ce sont des initiatives assez belles, et il y a une dimension utopique qui me plaît particulièrement et qui finalement n'est pas si utopique que ça, parce que c'est la réalité. Mais c'est vrai que quand on arrive ici, on est un peu dans une bulle. Donc ça s'inscrit à la fois dans un cursus universitaire, mais aussi et surtout dans une prise de conscience, je pense, des réalités écologiques et économiques et face aux inégalités qui sont croissantes en France. Même si dans le monde ça a tendance à s'équilibrer d'un point de vue mondial, en France on sent que les inégalités se creusent et j'ai envie d'être acteur du combat contre ces inégalités et pour l'égalité des chances, l'égalité des droits et voilà.
Je m'appelle Maël Aynine Nema Sharif, je suis né dans le désert saharien, français par accident parce que je ne savais pas que j'étais né colonisé. Donc, j'ai cette culture francophone très ancrée en moi. Je suis parisien depuis 35 ans. J'ai fait les Beaux-Arts de Paris, l'IDEC, l'école de cinéma. Et Je fais pas mal de choses à Paris. C'est une ville qui m'a marqué. Je suis né en Mauritanie, République islamique de Mauritanie, préfabriquée par De Gaulle. Et j'ai été écartelé en tant qu'homme, en tant qu'identité, par De Gaulle et Franco Caudillo. Donc j'ai deux moitiés, une française et une espagnole. Et j'ai préféré, ou mes parents ont préféré, que je grandisse dans la partie francophone. Ce qui fait que je me suis très bien intéressé à la langue de Mérimée, à la culture française, que j'ai bien captée, et sans me jeter des fleurs, au-delà de 70% des Français de souche, comme on dit, parce qu'ils ne s'intéressent plus à leur culture, malheureusement.
Alors justement, là, tout de suite, on est dans la bibliothèque du site des Grands Voisins, à côté de la galerie, dans la galerie même.
Ça, c'est mon petit coin. Moi, je me suis battu pour ça chez les Grands Voisins, à créer un lieu qui pourrait montrer toute la créativité, toute cette ébullition culturelle chez les Grands Voisins. Moi, je suis le premier artiste à m'installer ici, donc j'ai vu tous les artistes qui sont venus aussi s'installer. Et il y avait ce lieu, Aurore, les Grands Voisins ont commencé à s'y investir pour le cliner parce que c'était une ruine. Il y a un amphithéâtre où les étudiants apprenaient à couper les rats en quatre et qui nous sert maintenant de lieu pour diffuser nos films, pour montrer nos films, parce qu'on produit ici aussi des films. On est sur la production d'un long métrage sur la vie du site. Qui, entre guillemets, j'appelle vos auditeurs à chercher à aider le long métrage des Grands Voisins, Le Principe d'Espérance. Je pense qu'il va dater ce qui s'est passé chez les Grands Voisins et hors norme, extraordinairement inventif et participatif. Ici, chez les Grands Voisins, il y a eu pas mal de miracles. Moi, dans cette galerie que j'ai créée, il y avait quelqu'un qui a été ramassé par le 115. J'ai vu qu'il griffonnait un peu sur du papier, je lui filais des stylos. Et petit à petit, ce gars qui vient de la rue, qui n'avait aucune perspective, qui était dans des addictions alcooliques, 60 ans, avec un passé à la limite, les maraudes d'Aurore ont eu du temps à le convaincre à venir ici. Et putain, là, il a du talent, je l'expose ici, je lui fais une interview dans le journal du Monde, il me dit merci Maël, j'ai jamais parlé aux journalistes, et là, je le vends, il a trouvé sa voie. C'est bon, il ne boit plus, il est heureux, c'est un artiste, maintenant il cherche à créer, parce qu'il est dans le détail, il est très méticuleux. Et c'est bien de découvrir la prochaine expo. Ça va être une expo où je vais choisir justement ces petits paumés du petit matin qui ont été ramassés par le 115 et qui ont eu ici une petite éducation artistique ou qui ont en eux un talent, un mode d'expression. Et on va mettre la lumière sur eux. On va les rendre visibles, on va leur apprendre des choses parce que je crois beaucoup à l'insertion sociale via l'art parce que il y a eu des preuves. Je suis venu ici accueilli par Aurore qui m'héberge parce que j'ai eu un petit accident de parcours parce que je suis un artiste engagé. Je n'étais pas censé, si je n'avais pas eu cet accident de parcours politique, de venir ici, de ne pas avoir de papier et de pouvoir, moi, sortir la tête hors de l'eau et me faire reconnaître parce que j'ai quelque chose et parce que je ne connaissais pas la gestion politique de la misère urbaine. Et là, je suis en plein dedans et j'ai vu tous les travers et toutes les bonnes choses. Donc, à travers ça, moi, j'ai pas de patron ici. Donc, je navigue à vue, mais avec une bonté, un échange, un partage. Et il y a certains paumés du petit matin qui sont devenus mes potes, qui sont pour les autres des cas psychiatriques. Moi, j'ai fait l'expérience en faisant un peu d'art-thérapie. Quel gros mot, art-thérapie. Moi, je suis habitué tout petit à parler avec des fous dans le campement, dans le village. Ils ont leur fonction sociale. Il faut seulement les respecter. C'est des êtres humains. Et donc, il y en a plein qui viennent dans mon atelier, qui font des petits trucs, on s'amuse, on interviewe, dessin et tout. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'ils ne prennent plus de médicaments. C'est extraordinaire.
Merci Maël.
De rien.
Salut, je m'appelle Malik, je fais du bar au sein de la lingerie des Grands Voisins, qui est un peu le lieu où on vient prendre son café, socialiser et tout ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, ici, on est un peu la porte d'entrée sur le site. Ça veut dire que dès que quelqu'un veut un café ou un rationnement, il nous demande à nous. Donc à force de répondre aux gens, j'ai une cartographie complète du site, de toutes les activités. Et du coup, je suis un peu le front office, tu vois. Donc je me prends tout dans la tête. Dès qu'il y a une remarque, il y a quelqu'un qui se plaint, c'est nous qui le prenons. Et on a un peu la porte d'entrée d'ici pour le meilleur et pour le pire. Mais surtout pour le meilleur. Moi, j'ai commencé par l'éducation populaire. J'ai organisé des séjours de vacances avec des jeunes de quartiers défavorisés. Et suite à ça, j'ai rejoint des collectifs de squats et d'occupations diverses et variées, légales et illégales, sur Paris. Et là, on a organisé des activités culturelles, des trucs emprunts sur le quartier. Et en fait, ma présence ici, c'est un peu un aboutissement de toutes ces expériences-là. Sachant qu'ici, on est conventionné, quand on est là en temporaire, parce que la mairie le permet.
Est-ce que tu habites sur le site ?
J'habite sur le site depuis janvier. Je voulais pas habiter au début parce que je voulais pas mélanger travail et vie personnelle. Mais depuis, j'habite sur place, ouais. Tout comme les autres résidents hébergés par l'association Aurore. J'habite avec quelques membres de mon équipe. Du coup, on a le nez complètement dedans. Ce qui est super parce que tu as la logique petit village, confiance, dépannage et tout. Mais des fois, tu as aussi besoin de sortir parce que c'est trop.
Boulot et vie privée.
Il faut savoir bien renforcer sa maison intérieure pour ce genre de projet.
J'ai cru entendre que tu avais aussi bossé avec Maël.
Ouais, Maël, on bosse ensemble. Maël, c'est un mec qui a un parcours assez impressionnant. C'est un hébergé de l'association Aurore qui est artiste à côté, qui s'est toujours démerdé pour avoir des ateliers et qui commence un peu à s'exposer dans les différentes galeries d'art. Et du coup, je suis assez content et je l'aide parce que moi, je suis photographe. Je travaille à l'Argentique, on a un labo et en gros, je l'ai aidé pas mal à tirer des vieilles pellicules qu'il avait d'époque de la Mauritanie. Donc, on a fait un peu de la restauration de patrimoine. C'est assez impressionnant. Grâce à mes collègues là. Et du coup, voilà, l'idée c'est qu'ici, naturellement, tu vas pour aider les autres, qu'ils soient dans une démarche artistique ou qu'ils veuillent juste, qu'ils aient besoin d'une aide technique, quoi.
C'est une belle aventure humaine finalement.
C'est une très belle aventure humaine. Après, on se prend aussi toute la violence du social en France, c'est-à-dire que à la fois on est un pays qui accueille et qui héberge des milliers de gens qui sont à la rue dans une situation de précarité, mais qui à la fois les entretient un peu dans cette. Dans ce monde-là, c'est-à-dire que tu te rends compte qu'en fait, il y a des mecs qui sont hébergés par l'association Aurore, qui les accompagnent de manière assez formidable, mais qui du coup se restent un peu dans la même situation. Et finalement, les Grands Voisins, à la fois, c'est une porte d'entrée et une porte ouverte sur le monde, et à la fois, tu sens que les mecs, ça les protège, ils sont dans un cocon. Mais sauf que quand ça va finir ici, il va falloir qu'ils se reconfrontent à la réalité du marché du travail, pour ceux qui peuvent se le permettre, ou juste du monde extérieur. Donc c'est un peu le principe de l'utopie, vivons bien, vivons cachés, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe quand on se reconfronte au monde réel?
Et toi justement, tu l'envisages comment, la fin
moi,
de l'aventure?
J'ai l'habitude de déménager, de faire en sorte que mon lieu d'habitation change souvent. C'est-à-dire qu'un loyer à Paris, c'est beaucoup trop difficile, du coup tu as plutôt intérêt à être débrouillard, ou alors brasser du fric d'une manière ou d'une autre. Du coup j'ai l'habitude, donc moi ce que je fais, c'est que je déplace mes projets au fur et à mesure, et je fais en sorte de les reconstruire là où je suis.
Je peux te demander quel âge tu as ?
J'ai 29 ans.
Merci Malik.
Je t'en prie.
C'est la fin de ce Graines d'avenir consacré aux Grands Voisins, un lieu étonnant que je vous invite à explorer par vous-même. Vous trouverez d'ailleurs leurs actualités sur leur site lesgrandsvoisins.org. N'attendez pas, tout s'arrêtera à la fin de cette année 2017. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles découvertes.
C'était l'émission Graines d'avenir sur Art District, présentée par Julie Boucher, à retrouver tous les premiers lundis du mois à 16h.